D'un nouveau festival de musique. Voilà. Hier, nous parlions de musique celtique, et bien aujourd'hui, nous allons parler de musique baroque. Et notre émission du jour portera sur le festival Regard Baroque, qui se tiendra à Chédigny les 12, 13 et 14 septembre 2025. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir en studio deux invités. Carole Dessouvray, bonjour.
Bonjour.
Ah, j'ai mis votre micro un peu fort, autant pour moi. Bonjour à vous Carole Dessouvray, vous êtes co-organisatrice, vous êtes chargée de la programmation, de la relation avec les artistes dans la partie préparatoire du festival et vous êtes aussi artiste et professeur de l'art, est-ce que c'est bien ça?
Absolument.
Voilà, vous pourrez nous en dire plus après. Et nous avons également Bernard Vilson, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes co-fondateur du festival, co-organisateur, vous êtes également chargé de la programmation de la relation avec les artistes, du montage, du dossier de financement, et vous êtes instrumentiste amateur, c'est ça aussi?
C'est exactement ça.
Bien, merci à vous deux d'être venus jusqu'à notre radio de poche qui se situe au de Lyon. Et alors, vous allez pouvoir tout nous dire sur ce festival, d'autant que ça parle de musiques qui sont peut-être pas très connues par nos auditeurs, mais qui sont bien présentes en région centre. Alors tout d'abord, comment est né ce festival Regard Baroque et pourquoi à Chédigny?
Alors, en 2018, nous avons donné un premier concert à l'église de Chédigny. En fait, je faisais partie à l'époque d'un orchestre de musique baroque de la région parisienne. Et un ami de Chédigny m'avait dit « ça serait quand même bien que tu viennes avec ton ensemble jouer à Chédigny ». Et nous avons donné une œuvre de Monteverdi. Donc Monteverdi, c'est un musicien de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe, qui est un des grands précurseurs de l'opéra. Donc nous avions donné un concert de musique sacrée dans cette église, et un personnage important à Chédigny, c'est Pierre Louault, qui a été maire de la commune et sénateur jusqu'à septembre dernier, si je ne me trompe pas, m'a dit « Bernard, il faut que tu reviennes l'année prochaine, on a vraiment envie de vous entendre, c'était extraordinaire votre concert, etc. » Et j'explique à Pierre, « Bien écoute, Pierre, c'est un opéra l'année prochaine. Et pour jouer un opéra, il nous faut une scène, des décors, il y aura des danseurs, des instrumentistes, il y aura un metteur en scène, enfin, il nous faut tout ça. » Et Pierre Louault a une qualité que je lui reconnais vraiment, c'est que quand on lui propose, enfin, quand il propose quelque chose, ou on lui propose quelque chose, c'est oui, les problèmes, on les réglera plus tard. Il n'y aura pas de problème de toute façon. Et voilà, donc l'idée c'était en 2019 de donner un opéra, toujours avec cet ensemble d'amateurs. Le temps passe, l'hiver arrive, et coup de téléphone de Jean-François Chandelier, qui est l'ami de Chédigny, qui m'avait sollicité, qui me dit, bah, écoute, on a réfléchi avec Pierre, ça serait bien que tu organises un festival baroque. Voilà, c'est comme ça que c'est parti. Bon, il se trouve que je connais bien, même si je suis amateur, je connais bien le monde du baroque, je connais pas mal d'instrumentistes professionnels. Et voilà, j'ai été chargé de faire la programmation du premier festival qui a eu lieu donc en 2019.
Alors peut-être, pour nos auditeurs, vous insistez sur le fait que vous êtes amateur, seulement amateur entre guillemets, après on peut être amateur et très bon, c'est juste qu'on ne gagne pas sa vie avec la musique.
C'est exactement ça.
ça vous fait sourire.
Absolument, absolument. Oui, c'est. Donc moi, j'ai rejoint l'équipe en 2023-T1. Et moi aussi, je me considère comme professionnellement amatrice. Même. Voilà, je suis professeure en école de musique, mais artiste amateur, on va dire, pour faire court. Et donc, il y avait un problème dans la programmation, il manquait un ensemble. Et en fait, j'avais parmi mes amis quelqu'un qui venait de passer sur France Musique, qui avait été le disque du jour. Et voilà, comme ça que je leur ai dit, il y a quelqu'un de formidable dans la région. Voilà, et depuis, je n'ai pas quitté l'équipe. Je fais tout avec eux. On prépare tout, comme des fous. Voilà.
Alors, chez Dimy, terre de musique baroque, peut-être qu'on peut rappeler qu'en région centre, cette musique est quand même assez représentée.
Alors, je pense qu'il faut parler du conservatoire de Tours, qui a un département de musique ancienne, qui est plus orienté malgré tout sur la musique du Moyen-Âge et la musique Renaissance, mais on joue aussi de la musique baroque, il y a des groupes de musique baroque dans ce département. Peut-être qu'il faut situer dans le temps ce que c'est que la période baroque. La période baroque, c'est pas figé, hein, mais on va dire que ça commence en 1600 et ça se termine à peu près en 1750 avec la mort de Jean-Sébastien Bach.
Ouais, et alors cette musique baroque, il y a la radio dédiée hein, sur France Musique, une radio qui s'appelle La Baroque, mais est-ce que c'est une musique, disons, qui est peu écoutable ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on rencontre rarement, disons, en vivant, en live ?
Alors, bon, il y a énormément d'ensembles de musique baroque en France hein, et à l'étranger, et je pense que c'est important de dire ça à vos auditeurs, les musiciens baroques, les instrumentistes et les chanteurs baroques, ce sont des jeunes. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes. Alors le public est moins jeune, souvent, mais ce qui est paradoxal, c'est que les instrumentistes, eux, sont très jeunes. Il y a deux conservatoires nationaux qui enseignent sur la musique baroque et les instruments de l'époque, c'est Lyon et Paris. Donc oui, on a plein d'occasions d'entendre de la musique baroque, et ça s'adresse vraiment à tous les publics.
D'ailleurs, dans notre programmation, trois des ensembles ont des jeunes qui sortent des conservatoires supérieurs de Lyon et de Paris. Les Marilou, le vendredi soir, sont tous sortants de Paris. Et le samedi, c'est plutôt des Lyonnais, mais voilà.
Bon, alors, vous faites venir Paris et Lyon à Chédigny, quand même. C'est pas rien. On va créer un couloir aérien musical spécial.
Absolument. Alors, il faut quand même dire que parmi ces musiciens, ces jeunes qui se sont perfectionnés à Lyon ou à Paris, beaucoup d'entre eux sont aussi passés par Tours, par le département de musique ancienne de Tours, je trouve plus le mot, mais une bergerie, quoi, le mot bien.
Une pouponnière, on va dire.
C'est plus joli qu'écurie.
Voilà.
Et donc à Chédigny, bon, on imagine que les habitants sont plus que bienvenus. Comment se compose le public de votre festival ?
Alors, on a un public qui est, je dirais, essentiellement régional. On a les environs de Loches, de Chédigny, etc. Mais on a beaucoup de publics venant de Tours, de Blois et d'Amboise. On a quelques spectateurs qui viennent de Paris ou de Nantes. Mais bon, c'est vraiment un public régional, essentiellement.
Et alors, vous nous avez alléché déjà avec le concert du vendredi soir, donc peut-être que vous voudriez nous en dire plus avant qu'on puisse en écouter un extrait. C'est l'ensemble Marilou, c'est quoi ?
Alors, l'ensemble Marilou, c'est un ensemble de cinq instrumentistes qui sont vraiment l'image des instrumentistes de la période Renaissance.
Et baroque.
Oui, pardon. Renaissance et baroque. Les musiciens de cette époque-là sont souvent multi-instrumentistes, ils ne sont pas dédiés à un instrument. Et là, on a parmi les cinq jeunes qui viennent là, des gens qui jouent à la fois de la viole de gambe et qui chantent. Vous voyez, on va avoir l'occasion d'entendre des instruments que les gens ne connaissent pas beaucoup aujourd'hui. Je pense au traverso, qui est la flûte traversière de l'époque baroque. On va entendre viole de gambe, clavecin et luth et théorbe.
Alors, on écoute l'ensemble Marilou dans la Méridienne. Vous avez choisi une sonate en quatuor. C'est parti, vous pourrez nous en parler peut-être un peu plus après l'écoute.
auditeurs, auditrices, vous écoutez La Méridienne sur Radio Campus Tour 99.5 FM. Et dans vos oreilles, c'était Ensemble Marilous, Nathan Quatuor. Alors, j'ai dans ce studio nos deux invités, Carole
Dessoubray,
et Bernard Vixon. Alors, peut-être que vous voudriez nous en dire plus sur ce morceau qu'on vient d'écouter. Qui est le compositeur? Qui sont les musiciens? En quoi c'est représentatif de la musique baroque?
Alors c'est Dornel, le compositeur, et là ce qu'on vient d'entendre, c'est de la musique de cour qui est destinée plutôt à l'aristocratie, mais qui peut être interprétée, c'était très fréquent à l'époque, par la bourgeoisie aisée. Donc c'est une musique de cour, ce qui la caractérise, vous avez peut-être remarqué, on commence sur un mouvement assez lent, c'est comme un prélude, comme si on improvisait, et puis d'un seul coup ça s'agite. Et c'est un peu une des caractéristiques de cette musique, qui est extrêmement expressive. L'expression des sentiments est fondamentale dans la musique baroque.
Et alors, pendant qu'on écoutait, moi j'avais les invités en studio qui se demandaient quel instrument entendait-on. Alors justement, peut-être que vous voudriez dire à nos auditeurs quels instruments on a pu entendre.
Alors vous avez pu entendre deux traversos. Donc le traverso, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est la flûte traversière qu'on connaît aujourd'hui, à cela près que la flûte du XVIIe siècle, on l'appelle aussi la flûte à une clé. C'est-à-dire que les flûtes que vous connaissez aujourd'hui, il y a plein de clés pour boucher les trous, et là, sur cette flûte, sur ce traverso baroque, il y a une seule clé.
Elle est en bois aussi.
Elle est en bois, et... Elle a une caractéristique par rapport à l'instrument d'aujourd'hui. L'instrument d'aujourd'hui, toutes les notes peuvent avoir la même puissance. Là, sur l'instrument, sur le traverso baroque, il va y avoir des notes extrêmement puissantes et des notes extrêmement faibles. Et les compositeurs de l'époque vont jouer sur ces forces et sur ces faiblesses pour justement amplifier l'expression. Donc on a entendu également...
Un violoncelle.
Tout à l'heure, j'ai dit une bêtise. C'est la violoncelliste qui est chanteuse aussi. Elle joue pas de la viole de gamme, donc c'est une violoncelliste. On a entendu un clavecin et on a entendu probablement un théorbe.
Voilà.
Un théorbe qui est un genre de luth.
Basse, avec des cordes très longues. Voilà. C'est un instrument assez rare qui se mêle très bien à la harpe baroque.
Alors vous-même, vous jouez de la harpe baroque ou de la harpe tout court?
Alors je joue de plusieurs harpes, mais pas de la baroque. Je joue de la harpe romantique à pédales, je joue de la harpe celtique, je joue de la harpe médiévale, et pour les troubadours, parce que j'ai un programme sur ça, et puis de la harpe gothique jusqu'au XVe siècle, jusqu'à la harpe renaissance, mais le baroque, c'est pas l'esthétique que j'aime jouer. J'adore l'écouter, mais je n'avais pas envie de la jouer. Voilà, on peut aussi être juste auditeur et... profitez beaucoup.
Bon, allez, combien avez-vous d'instruments? Combien avez-vous de harpes?
Moi, quand on aime, on ne compte pas. J'en ai plus que 5.
D'accord. Et bon, elles sont pas toutes de la même dimension. Hein.
Je pense, oui,
la
voilà.
La petite qui est plus petite, peut-être.
Oui. Mais j'ai des harpes qui vont... La plus petite, c'est la médiévale troubadour, elle a 17 cordes. Et la plus grande, c'est la harpe romantique qu'on voit dans les orchestres symphoniques, elle a 47 cordes.
Voilà, donc il faut un peu de place quand même, j'imagine.
Voilà, c'est pour ça qu'on habite à la campagne.
Merci à vous deux. Alors, je rappelle que cet ensemble Marilou et ses 5 musiciens, on pourra les écouter en ouverture du festival. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le jour et l'heure où on pourra venir les entendre?
Alors, on pourra les écouter vendredi 12 septembre à 20h30 à la salle des fêtes. Tous les concerts du festival ont lieu à la salle des fêtes. Pourquoi la salle des fêtes? Parce que l'acoustique de la salle des fêtes est exceptionnelle. Ça paraît bizarre, on se dit salle des fêtes, c'est pas très joli, ça fait communal, ça fait... Voilà, et bien en fait c'est une très très chouette salle, acoustiquement parlant.
La scène a une coque en bois qui permet d'avoir un son, un très beau son. Voilà.
Ah, c'est vrai qu'on associe parfois salle des fêtes avec un son où ça résonne beaucoup.
Non, là c'est très fin, c'est très beau.
C'est exceptionnel. Il y a un ensemble qui a joué il y a quelques années au festival, qui est l'ensemble Into the Winds. Et ils venaient répéter là parce que c'était exceptionnel.
Et donc, vous parlez de cette programmation musicale. On sait déjà qui jouera en ouverture du festival, mais comment l'avez-vous construite? Parce que ce festival, donc, ça dure sur 3 jours, du 12 au 14 septembre à Chédigny, et il y a de nombreux concerts. Donc, comment cette programmation a été construite? Est-ce que vous êtes battus les uns et les autres pour savoir qui est invité?
Alors, déjà, on ne se bat pas, mais on, comme vous l'avez déjà compris, on est deux. Plus spécifiquement chargé de la programmation, c'est Carole et moi-même. Et Carole a une grande connaissance de la musique du Moyen-Âge et Renaissance. Moi, j'ai une approche plutôt sur le baroque. Donc, et Carole est amatrice de musique baroque. Donc on se complète, ce que je veux dire, c'est qu'on se complète vraiment très bien pour la programmation. On a plein d'idées. On a, là, en voiture, en venant vous voir, on avait déjà l'idée du programme de 2028. D'accord? Alors, au-delà de ça, on s'est fixé un thème qui est la fête et l'intime. La fête pour attirer le maximum, un public le plus large possible. L'intime, c'est ce qu'on vient d'entendre avec Marie-Lou, qui est une musique plus élitiste d'une certaine façon. Mais notre programme, il est bâti comme ça. Et c'est ce qui va intervenir... le samedi après-midi et le samedi soir et le dimanche après-midi, c'est la fête. C'est la fête et la musique plus populaire, si vous voulez.
Alors, pardon, j'insiste, mais sur l'idée de construire une programmation cohérente, donc pour un public averti ou, disons, plus curieux, qui a peut-être moins cette musique dans l'oreille, il y a aussi toute une idée de maillage, de comment on construit la programmation, qui on choisit, qui on met à quelle heure. Du coup, j'imagine que c'est un travail conséquent. Vous passez beaucoup de temps à écouter, à chercher des musiques. Comment ça se passe?
Alors, écouter, j'avoue que moi, personnellement, bon, Marie-Lou, je les ai découvert sur Internet, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et puis après, je les ai écoutés sur France Musique. Bon, on a chacun des références en tête. Mais j'avoue que personnellement, je n'ai pas écouté beaucoup de musique. J'avais déjà des idées en tête.
En fait, par notre pratique, nous connaissons quelques personnes dans le milieu et après, ça nous donne des idées. Là, on voulait faire un bal Renaissance parce que bal baroque, c'est pas possible. Les danseurs étaient des professionnels, ils étaient très haut de volée. Donc, pendant le bal, le bal Renaissance, ça permet que tout le monde puisse danser. Et ça, c'était pour nous un truc important, de partager, de faire voir que c'est une musique extrêmement vivante, gaie... Voilà, et donc c'était la chose de base pour se dire qu'on allait avoir un échange avec un public qui n'était pas forcément averti. Et donc pendant le bal, il va y avoir une danseuse qui, elle, va faire une représentation de danse baroque, où là, il faut être professionnel. Louis XIV était un des premiers danseurs professionnels qu'on peut imaginer. Toute la gestuelle du ballet moderne est née de cette époque-là. Voilà. Et notre deuxième idée pour aller vers vraiment un public le plus large possible, c'était de faire venir Douce Mémoire avec sa roulotte en chanson. Donc, ce n'est pas la grande roulotte, on va avoir une plus petite roulotte. Mais ils vont jouer dehors, en public. C'est un spectacle que moi, j'avais pu voir à Tournord, où le public était totalement... néophyte de ce genre de musique, et vraiment, il y avait de toutes sortes de gens, et tout le monde a pu écouter, rire, c'est un spectacle très drôle, et on avait envie de partager ça avec le public. Voilà.
Donc ce bal Renaissance, il sera quand dans votre programmation?
Il est samedi, et samedi soir à 20h, et donc les gens pourront danser à l'intérieur de la salle des fêtes, qui sera organisée pour... Et puis, si le temps le permet, c'est le cas pour l'instant, on pourra faire une extension à l'extérieur. Ce qui est important à dire aussi, c'est que, bon, c'est bien de danser, c'est bien d'écouter de la musique, mais il faut aussi se restaurer. Et c'est quelque chose auquel on est très attaché à Chédigny. Mais on reste baroque, c'est-à-dire que les collations, le buffet, tout ça, ce sera avec des mets que l'on pouvait déguster à l'époque de Louis XIV, voire à la cour de Louis XIV.
Alors, avant de vous en demander un peu plus sur ce succulent buffet, eh ben, on va écouter les Lunésiens, ça tombe bien, puisqu'ils seront justement programmés avant le bal. Alors, avant qu'on écoute, est-ce que vous voudriez nous dire un mot de cet ensemble?
Alors, c'est un ensemble où le chanteur, qui est le directeur artistique de l'ensemble, est très intéressé par la poésie. Donc, il a pris des poèmes qui sont de l'époque baroque, mais à la fois, il aime cette période, parce qu'il est un grand professionnel du monde baroque, mais il aime aussi les chemins de traverse. Et donc, il a eu l'idée de constituer son programme autour de musique d'époques différentes qui ont été faites sur des poèmes de l'époque baroque. Donc, on va entendre des musiques de l'époque baroque, il va y avoir du Jean-Jacques Rousseau, mais aussi des musiques du 19e siècle jusqu'au 20e siècle. On va entendre du Canteloube et du Benjamin Britten, qui sont des gens bien après cette période baroque. Et c'est ce qui nous plaît dans ce baroque-là, c'est-à-dire que notre festival s'appelle Regard Baroque avec un petit B. Pour l'adjectif, on veut que ce soit ouvert à plus large que juste une programmation baroque.
Alors, nous allons écouter « Trois jours de moisson » par les Lunésiens. Voilà, c'était une proposition que vous avez faite pour cette émission. Et on vous remercie d'ailleurs d'avoir fait cette playlist pour nous. À tout de suite dans la Méridienne.
Quand j'étais chez mon père, apprenti pastourion, il m'a mis dans la lande pour garder les troupions. Mais le loup de la plaine m'a mangé le plus bio.
Troupion, troupion, je n'en avais guère. Troupion, troupion, je n'en avais guère.
Mais des os de la bête me fit un chalumeau pour jouer à la fête du hamio. Pour jouer à la fête du hamio.
Troupio, troupio, je n'en avais guère. Troupio, troupio, je n'en avais guère.
Troupio, troupio, je n'en avais bio.
Appetizer pour vos oreilles, auditeurs, auditrices, vous allez écouter les Lunésiens, donc un ensemble qui est programmé au festival Regard Baroque de Chevigny, et vous pourrez les entendre samedi 13. Alors je crois, Carole Dessoubret, que vous souhaitiez justement nous dire quelques mots sur cette musique baroque.
Alors, comme toutes les musiques de toutes les époques, il y a de la musique savante, de la musique populaire, de la musique religieuse. Donc la première partie où vous avez eu le chanteur, c'était une chanson sur un texte populaire. C'est pas de la musique de cour. Après, la musique instrumentale était plutôt une musique de cour. C'était une façon d'illustrer ce baroque qui est un adjectif et pas seulement le nom d'une époque. Voilà.
Peut-être voulez-vous dire un mot aussi sur le mot baroque en lui-même ?
Eh bien, alors, baroque, c'est né... On dit que c'est né du mot italien barocco, c'est les perles irrégulières. Et donc, ce que vous avez eu là, c'était tout à fait l'illustration. On a et de la musique populaire faite avec grand soin, et de musique de cour. On est... Voilà.
Merci. Alors peut-être aussi, vous l'avez déjà évoqué, le mouvement baroque, donc ça c'est de la musique, mais c'est de la danse aussi, c'est aussi toute une œuvre littéraire. Du coup, est-ce qu'on chante Théophile de Viau ?
Alors là, je ne peux pas vous dire. Au niveau, puisque vous parlez de littérature, le dimanche, le concert avec Marc Moyon et Angélique Moyon sera vraiment axé sur la poésie d'une seule personne. C'est la comtesse de la Suze, qui était une amie de Ninon de l'Enclos et qui faisait partie du mouvement des précieuses ridicules que nous a bien abîmé Molière. Mais c'était un mouvement de femmes libres et cette comtesse de la Suze était vraiment une dame féministe avant l'heure. Elle a eu une vie très indépendante. Elle partageait avec son époux leur détestation commune. Ils se sont séparés d'un commun accord. Elle a même changé de religion pour être sûre de ne pas le retrouver après la vie. Voilà.
C'est très drôle. Donc, voilà, une programmation, certes, musicale, vous l'avez dit, il y aura de la littérature, de la danse et des conférences.
Oui, c'est, notre festival, ce n'est pas une succession de concerts. C'est bien au-delà de ça, puisqu'on aura une conférence d'une restauratrice de tableaux qui nous expliquera son travail, ses recherches. On aura également un instrumentiste et facteur d'instruments en cuivre qui nous expliquera déjà l'évolution de l'instrumentation du XVIe siècle jusqu'à nos jours. Je pense qu'il parlera de ça, puisqu'il fabrique aussi bien des trompettes d'aujourd'hui que des trompettes qu'on dit naturelles de la période XVIIe-XVIIIe. On aura aussi, je pense que c'est important de le dire, des ateliers où des spectateurs pourront fabriquer eux-mêmes leur instrument. On a un érudit, un acousticien de haut vol, qui vient avec des tuyaux en PVC achetés dans un magasin de bricolage pour un prix dérisoire. Et à partir de là, bah, les spectateurs apprendront à faire les trous au bon endroit, à créer le bec comme il faut, et ils partiront avec une flûte qui fonctionne très bien. Je vais vous raconter une anecdote. Ce Bernard Bonin, puisque c'est lui, est venu au dernier festival et donc il fait travailler des spectateurs pour fabriquer cette flûte. Et puis il y a une petite fille qui est là et qui fabrique donc cette flûte-là. Elle est toute contente. Et puis elle lui dit à Bernard Bonin, « Ah, tu sais, mon papy aussi fabrique des flûtes. » Et il s'agit de Philippe Bolton, qui est un des grands facteurs internationalement connus dans le monde de la facture d'instruments de flûte à bec. Et puis elle lui a rappelé plus tard, oui, il l'a essayé, elle est bien ta flûte. Enfin, excuse-toi, hein, ça se passe comme ça. Donc voilà, donc on aura cette fabrique-là. Et puis on a un grand luthier dont j'ai oublié le nom, il ne revient pas.
Ramon Cédron,
on connaît le Quartetto Cédron, je pense que c'est de la famille.
Oui, je crois que c'est son père.
Et donc, c'est un facteur, un luthier, on parle plutôt de luthier dans ce cas-là, qui fabrique des viols de gambe, des trompes marines, des choses comme ça. Enfin, c'est quelqu'un d'extraordinaire.
Voilà, et donc pour continuer sur cet esprit convivial, là, on a évoqué tout à l'heure un buffet le samedi soir. Alors, est-ce que vous voudriez nous en dire plus là, pour allécher les auditeurs? Et on rappelle aussi que le dimanche 14, il sera prévu une collation baroque. Donc là, voilà, qu'est-ce qu'on va manger?
Alors, le samedi soir, vous aurez le droit à un velouté froid de petits pois, une tourte de viande et chou vert, un fromage de chèvre du Sainte-Maur, évidemment, dans notre région, et un millefeuille. Et ces plats-là sont des plats de l'époque, hein, vraiment. Et j'ai envie de vous parler du repas du dimanche, qui est caractéristique des goûts de Louis XIV. Ça peut paraître un peu curieux. Salade de chou-fleur, auréolée d'œufs durs et son assaisonnement. Les œufs durs, il mangeait des œufs durs tous les jours, Louis XIV. Il adorait ça. Alors bon, ça, c'est pas très classe pour nous, aujourd'hui, les œufs durs.
Oui, si, c'est un régime hyperprotéiné.
D'accord. Sanglier en daube accompagné des délices de monsieur de la Quintigny, nouvellement appelé champignon de Paris, en fait, magnifié de carottes, et enfin un sorbet aux fruits, parce qu'à l'époque, dans la cour de Louis XIV, on mangeait des sorbets. Hein. La glace venait des Alpes et était conservée dans des fosses, si je me souviens, enfin des grandes cavernes.
On appelait ça des glacières. Chaque château avait sa glacière. On faisait des trous dans... la glacière de Main-sur-Loire, par exemple, est très, très belle et on peut la voir. Voilà. Chaque château avait sa glacière, justement pour avoir... À l'époque, on faisait des goûts extraordinaires. Moi, j'ai goûté personnellement cannelle parmesan. c'était pas très bon. On peut faire des essais, mais il y a un moment, c'est un peu trop exotique.
Il y a peut-être des saveurs, disons, un peu moins...
Oui, par exemple, ils faisaient des sorbets à la fraise qui étaient délicieux. C'est plus simple. Mais la cour aimait faire des choses excentriques, donc voilà.
Sinon, on s'ennuie.
Voilà.
Le baroque, c'est aussi ça, hein. C'est aussi l'excentrique.
Et alors, qu'en était-il des costumes à l'époque ? Est-ce qu'il y avait un vêtement baroque, un vêtement excentrique ?
Alors là, moi, je ne suis pas spécialiste du tout du vestimentaire.
Dans la période de la Renaissance, on avait dans les bals les canaris. C'est un petit peu avant. Et là, les gens étaient capables de dépenser des fortunes pour un costume qu'ils portaient une seule fois avec des masques extraordinaires. Et il ressemblait à n'importe quoi. Il fallait que ce soit complètement fou. C'est marrant parce qu'on imagine moins la période Renaissance partir dans des trucs comme ça. Pour la période baroque, de toute façon, le costume est toujours extraordinaire pour la cour. L'objectif de Louis XIV était que la cour se ruine et pour être vraiment dépendante de lui, c'était une façon politique de gérer tous ces petits nobles qui avaient trop de pouvoir à son idée. Donc il y avait des dentelles extraordinaires. C'est tous les jours, en fait, à la Renaissance, c'est un jour de temps en temps où on fait un truc extraordinaire. Là, pour l'époque baroque, pour les grands seigneurs, c'est tous les jours qu'il faut être extraordinaire.
C'est la fashion week permanente.
Absolument.
On va pouvoir faire une nouvelle écoute. Alors là, on va écouter un extrait de la roulotte d'Arlequin. Donc, c'est Douleceux Mémoire, qui sera aussi à voir dans votre festival. Quel jour et à quelle heure, s'il vous plaît ?
Alors, la roulotte viendra le dimanche et se déroulera en trois actes, le matin, en début d'après-midi, en fin d'après-midi. Mais pour les spectateurs, c'est un concert. Il faut le considérer comme un concert. Pour être très trivial, on payera une entrée et on assistera aux trois actes. Et donc, il faut venir dès le matin pour avoir toute l'histoire.
Voilà, parce qu'en fait, ce n'est pas trois fois le même spectacle. C'est vraiment un spectacle en trois actes et il se passe des choses au milieu. Voilà. Il y aura un concert, par exemple, le concert d'Angélique et Marc Moyon sur les textes de Madame de la Suze sera... entre l'épisode 2 et 3 de notre roulotte en chanson, qui n'est pas exactement la roulotte d'Arlequin. Elle est un petit peu réduite. Notre village est un petit peu trop petit pour la grande roulotte. Nous avons préféré une plus petite roulotte. Voilà.
Voilà. Vous pouvez quand même en écouter, disons, un extrait de cette roulotte d'Arlequin, auditeur, auditrice. On écoute ça tout de suite sur Radio Campus Tour.
Stasera no, 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 mi dire di no.
Stasera no,
no, no, senza te non ci sto.
Stasera no,
mia gli amiche che le dai, a passaggio insieme a me, e che voglio stare solo insieme a te.
Insieme a te,
ti porterò, oh, oh, fino a posto questo. Che ci amiamo capirà, fingerà di non vederci se ne andrà.
Ci stiamo di cuore. ce mémoire. Donc nous venons d'écouter dans cette émission un extrait de la roulotte d'Arlequin.
Alors peut-être, chers invités, vous voudrez nous dire quelques mots sur la chanteuse qu'on entend dans cette roulotte et qu'on entendra aussi au festival.
Alors vous avez entendu Véronique Bourrin, qui travaille avec Dulce Mémoire depuis fort longtemps, qui est une tourangelle, qui d'ailleurs donne des cours au département de musique ancienne de Tours, où nous avons pu nous rencontrer d'ailleurs avec Bernard, que nous avons pratiqué tous les deux. Voilà, c'est un endroit où à la fois on forme des grands amateurs et des futurs jeunes professionnels, dont certains d'ailleurs qui sont dans le festival ont pu croiser les cours du département de musique ancienne de Tours.
Et alors, cette chanteuse, vous avez pu la voir aussi à Tours dans d'autres contextes ?
Absolument. Alors, moi, je l'ai déjà vue pour les 25 ans de Dulce Mémoire. Elle faisait partie de la production. Et puis, au Beffroi pour la grande roulotte, puisque nous avons la petite roulotte, mais au Beffroi, à Tournord, là, c'était un moment absolument extraordinaire.
C'est quelqu'un d'extrêmement joyeux, entraînant. On sort, là, le spectacle qu'on propose, on en sort ravi, décontracté, loin de toutes les contraintes extérieures qu'on peut connaître actuellement. Vraiment, c'est une œuvre de décontraction et de bonheur.
C'est une chanteuse très dynamique, très vivante, très généreuse, très humaine.
Bon, alors je ne résiste pas à vous demander si cette joie est une constante dans la musique baroque ou est-elle spécifique à cette roulotte. Est-ce qu'ils ont un peu le cœur navré quand même?
Ah oui. Alors, bien sûr, l'époque baroque est une époque au niveau des émotions de l'extrême. Et donc, si vous lisez les Marilou, eux, ce qu'ils aiment dans l'époque baroque, c'est les hélas. Donc, il y a beaucoup de bergères qui pleurent ou de jeunes pastoureaux qui pleurent une amourette. Enfin, et donc, à la fois, on a beaucoup de gaieté et beaucoup de tristesse.
Donc, dans la musique religieuse, je pense aux leçons de ténèbres qui sont données à l'époque de Pâques, c'est pas spécialement gay. Hein. Voilà. Donc il y a tous les genres, tous les sentiments qui sont exprimés.
Voilà, je crois qu'il y a aussi des motifs récurrents, en tout cas peut-être dans la peinture et dans la littérature baroque, c'est l'idée que les cieux et l'eau se confondent. Mmh. Il y a cette idée de fusion des univers, d'extrême tristesse, d'extrême joie.
Oui, cette notion de fusion, on l'a dans tous les genres. Et donc, toujours, on cherche à faire se rejoindre les extrêmes. C'est vraiment ça qui donne la couleur de l'époque.
Bon, est-ce que ça fait écho à la nôtre ?
Belle question ! Alors, ils ont une notion ils sont allés loin quand même dans dépenser, gaspiller. Je pense qu'ils avaient une notion de fin d'un certain temps, d'un fin d'époque. Et on est quand même assez là-dedans aussi. Si on va loin, là, jusque-là, on peut.
Je ne réponds pas à votre question, mais...
C'est pas grave, c'est pas grave.
Elle évoque quelque chose d'autre chez moi. C'est quel lien y a-t-il entre cette musique baroque et la musique d'aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a un rapport ou est-ce que c'est très éloigné ? Eh bien, je vais, si je peux me permettre, je vais chanter quelque chose et vous donner un peu une idée de ce qu'était la vision qu'on avait déjà de cette musique-là quand on la jouait dans les années 1960, et la vision qu'on en a aujourd'hui. Après, je continuerai sur le rapprochement avec la musique d'aujourd'hui. Pam 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 pam. Ça, c'est comment on la jouait dans les années 1960. Maintenant, on la joue de la façon suivante. Pam 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 pam. J'espère que j'ai peut-être pas été très performant, mais j'espère que vous avez senti qu'il y avait une différence. Et la différence, c'est une rythmique. Une rythmique jazzy, en fait. Ça swing, la musique baroque. Et j'ai le souvenir, le premier concert qu'on a donné en 2018, c'était donc du Monteverdi, et j'avais une amie de ma fille qui était avec son petit garçon, qui avait une dizaine d'années, et à la fin, il me dit « Mais finalement, la musique baroque, c'est du rock ancien. » Et il avait tout compris, en fait. Alors, c'est pas du rock, c'était plutôt du jazz. Si vous voulez, les musiciens baroques, quand ils ont une partition devant les yeux, il y a effectivement des notes écrites comme aujourd'hui, hein, ça n'a pas fondamentalement changé, mais simplement, il y a Il y a toute une façon de jouer cette musique-là. Et le swing, le rythme, est quelque chose d'extrêmement important.
Et l'improvisation. En fait, il y a des traités pour ça. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la musique historiquement informée, qui fait beaucoup partie de ce festival-là, les musiciens doivent d'abord jouer ce qui est écrit, mais aussi tout ce qui ne l'est pas, qu'ils ont lu, et ils ont eu une pratique d'improvisation, comme font les gens qui font du jazz, en fait.
Ça existe peut-être des formations avec des musiciens de jazz et baroque.
Absolument. D'ailleurs, le pianiste qu'il y avait dans la roulotte, qui ne sera pas là sur la nôtre, c'est quelqu'un qui a une formation de jazz et qui est venu au département de musique ancienne travailler son clavecin. Mais donc une curiosité pour les deux. Et ce qui l'intéressait justement, c'était que là aussi, il y avait de l'improvisation à travailler.
D'ailleurs, si vous voulez bien nous dire quelques mots de cet instrument, le clavecin, qui a un son très particulier. À quoi il ressemble, qu'est-ce qu'il sonne?
Alors, vu de dehors, un clavecin, ça ressemble à un piano, hein, ça, une espèce de queue longue là, avec des touches qui sont de deux couleurs. Alors, sur les clavecins, ils peuvent être à l'inverse du piano. Au piano, on voit plein de touches blanches et des touches noires. Au clavecin, ça peut être plein de touches noires et des touches vertes, jaunes. Enfin, c'est pas, il y a rien de normé. La largeur des touches également et n'est pas homogène. Et le piano a des cordes frappées, alors que le clavecin a des cordes grattées. Et ça fait toute la différence du son. Et la matière des cordes aussi. C'est-à-dire qu'au clavecin, il y a des cordes métalliques fines et des cordes en boyau. Alors qu'au piano, seulement, il y a des cordes métalliques qui sont beaucoup plus grosses et plus tendues. Voilà.
Bernard Bonin, qui vient fabriquer ses flûtes avec les spectateurs, et aussi un spécialiste de clavecin, donc il pourra répondre encore de façon très précise à votre question.
Voilà, parce que je pense notable, c'est ce son très métallique en fait, du clavecin, une texture tout à fait particulière. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment un instrument qu'on reconnaît, même si on n'est pas, on n'a une oreille pas aussi connaisseuse que la vôtre, on reconnaît facilement le clavecin. Bon, sur ces bonnes paroles, je vous propose de faire une nouvelle écoute. Alors là, vous avez choisi un morceau qui s'appelle « Bouton, un doux repos ». De quoi s'agit-il?
Alors là, c'est un air de Michel Lambert qui est caractéristique de la musique de cette époque-là.
Alors c'est un air de cour que va chanter Marc Moyon. Et cette chanson, vous ne pourrez pas l'entendre pour le festival parce que, justement, ce Lambert n'a pas utilisé un poème de Madame de la Suze. Il y aura du Lambert, mais pas cette chanson-là. Voilà.
C'est pas grave. On va écouter tout de même cet extrait. Et puis, là, pour écouter l'autre, il faudra venir sur place. Donc, à Chédigny, au festival Regard Baroque. Donc, c'est le dimanche aussi, n'est-ce pas?
C'est le dimanche, absolument.
À 15h30.
Voilà. Rendez-vous est pris et on va écouter. Et ceci dans la Méridienne, toujours sur Radio Campus Tour.
Que deviendrai-je, hélas, hélas, le reste de ma vie, que deviendrai-je, hélas, hélas.
voici dans la Méridienne. Donc nous venons dégoûtons un doux repos. C'était un choix de nos invités. Alors peut-être, Carole Dessoubrec, vous voudriez nous en dire plus sur qui chante.
Alors, c'est Marc Moyon que vous venez d'entendre, qui est un chanteur justement qui a une carrière tout à fait baroque. Il est très spécialiste de musique médiévale. Il chante à la perfection, en travaillant beaucoup la prononciation. Mais il peut aussi chanter Poulenc, où il a enregistré des chansons écrites pendant la guerre de 14 par des compositeurs qui étaient dans les tranchées. Ça faisait partie de la commémoration de la fin de cette guerre. Et il participe également à des opéras contemporains. Donc il a une très grande utilisation de ses compétences de chanteur. Il ne pratique pas le rock, je ne crois pas savoir, ni le rap, mais tout ce qui concerne la musique qu'on dit savante, il a pas de limite en fait.
Et là, vos auditeurs ont peut-être remarqué la diction particulière. On parle de français de prononciation restituée, où chaque syllabe est accentuée. Les R sont roulés, par exemple, les finales sonnent. Moutons, hein, on connaît bien ça. Bah là, on entend ça dans la diction de Marc Moyon.
Donc ça veut dire qu'il existe aussi des formations, des ateliers de pratique?
Absolument, absolument. D'ailleurs, il y a 2 ans, on avait fait venir un ensemble qui s'appelle la Fabrique à Théâtre, et un des acteurs on a organisé un atelier de diction baroque pour que les gens apprennent à prononcer comme on prononçait probablement au XVIIe siècle.
Dans la formation des chanteurs aujourd'hui, il y a un travail sur la diction de l'époque. Par exemple, le latin de l'époque de Louis XIV se prononçait avec des us, ce que nous ne faisons pas aujourd'hui en cours de latin. Et donc, c'est pour ça que les chanteurs de cette époque-là, quand ils chantent en latin, ils ont une diction tout à fait particulière qui peut tout à fait étonner quelqu'un qui travaille aujourd'hui son latin.
Alors, est-ce que c'est proche ou pas du tout de la diction des troubadours?
Ah ben non, parce qu'en fait, le français évolue à longueur de temps. Donc, les troubadours sont à 4 siècles d'écart. Vous imaginez bien que notre français d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le français d'il y a 4 siècles. Donc, on est au XVIIe siècle. Vous voyez, en fait, voilà, c'est la même distance. Donc, on ne parle pas comme les gens de l'époque du XVIIe siècle. Eh bien, eux, ils ne parlaient pas du tout comme les troubadours.
Donc, en fait, ça veut dire que les textes ici chantés ou ici lus, on ne se contente pas seulement de rajouter un petit S ici, une petite consonne à la fin, il y a vraiment toute une façon de prononcer. Vous avez même un rythme, un phrasé qui est particulier.
Là, l'écriture musicale aide. C'est l'écriture musicale qui conduit à cette diction-là. Ce n'est pas effectivement que les S à la fin, mais la scansion, elle est liée à la rythmique musicale.
Et je crois qu'on va pouvoir écouter le dernier choix musical de nos invités. Alors, je crois que ce n'était pas le morceau que vous vouliez nous faire entendre, Into the Wind, mais bon, on va pouvoir l'écouter quand même. Qu'est-ce que vous aimeriez nous dire de cet album? Parce que c'est aussi un CD de ce groupe. Est-ce que c'est...
Alors, le groupe Into the Wind sont venus il y a quelques années, je n'ai plus la date.
En 2021.
Voilà. Alors, la plupart, même tous, je dirais, sont issus du département de musique ancienne de Tours. Ont eu une partie de leur formation qui a été faite là. Et bon, il se trouve que moi, très modestement, j'ai joué avec eux dans des ateliers, et donc ce sont devenus des amis, et donc on les a fait venir à Chédigny. Ils ont adoré Chédigny, et Chédigny les a adorés à tel point qu'ils ont fait des sessions de répétition dans la salle des fêtes de Chédigny. Là, il s'agit d'un album consacré à la danse. Alors j'ai choisi un peu rapidement un morceau qui est vraiment un morceau pour les aristocrates. Ça correspond à une basse danse qui est une danse extrêmement lente. Et en fait, j'aurais voulu vous proposer un autre enregistrement plus tonique. Donc, faut pas. Là, c'est une illustration pour l'atmosphère sonore. Mais ce n'est pas le reflet de toutes les danses de l'époque. Et samedi soir, on aura des danses beaucoup plus entraînantes qui seront proposées. Mais aussi des basses danses ou des pavanes qui sont des danses lentes.
Voilà, mais c'est toujours mieux en live, la musique.
Absolument.
Faut venir au festival de Chédigny, on a bien compris le message. Donc on va écouter tout de même cette musique un peu lente, mais sûrement très bien, tout de suite.
De retour sur Radio Campus Tour et nous venons d'écouter un extrait de Into the Wind. Alors là, je crois qu'il y a un casque qui est un peu trop près d'un micro. Je crois, Carole Dessoubré, que vous souhaitiez quand même préciser à nos auditeurs que ces musiciens feront partie du bal et qu'il faut absolument venir les écouter et danser.
Oui. Alors donc, parmi les musiciens qui vont faire danser le samedi soir, parce que l'ensemble que nous allons avoir s'appelle Les Muses en Famille. C'est un ensemble, c'est justement une famille. Le père joue du basson, il a joué avec les arts florissants, la mère aussi. Leur fille va nous faire la démonstration de danse baroque, mais le maître a dansé des danses de la Renaissance que les gens pourront partager avec nous. Adrien fait partie de l'ensemble Into the Winds. Et ce que vous avez entendu là est une musique à danser de bal. Voilà, que les gens pourront partager. Ils vont partager avec nous des pavanes, des branles simples, doubles, morguées. Voilà, pour vous faire rêver un peu. Et la gaillarde. Alors là, attention, c'est pour les grands sportifs.
Bon, il y en a pour les autres aussi. Hein. N'ayez pas peur, auditeurs, auditrices. Donc, on rappelle que votre festival Regard Baroque, avec un B minuscule, se tient les 12, 13 et 14 septembre 2025 à Chédigny. Alors, peut-être qu'il y a une billetterie en ligne, ou alors est-ce qu'on achète directement son billet sur place?
Alors, il y a plusieurs façons de faire. Déjà, aller sur le site de la mairie de Chédigny, qui est www.chedigny.fr, où là, vous avez tout le programme complet du festival et le moyen d'acheter des billets en ligne. Vous avez la possibilité d'appeler le 06... ça y est, j'ai un peu de
mal. C'est écrit dessus.
En plus, c'est un numéro que je connais pourtant très bien. 06 81 09 54 47. 06 81 09 54 47. Là, vous pourrez réserver et vous réglerez sur place. Et puis, évidemment, les jours de concert, il y aura une billetterie. Vous pourrez acheter vos billets pour les concerts et pour les collations.
Et alors, est-ce qu'on peut savoir combien coûte ces billets?
Alors on a fait le choix suivant pour attirer un public jeune. Les jeunes de moins de 18 ans auront des places gratuites pour le festival. Et ça c'est quand même exceptionnel. Bon, les étudiants, les titulaires du RSA, etc., eux ont un tarif réduit à 7,50 €. Et puis il y a également un pass 3 jours pour 60 €. Et là, vous assistez à tous les concerts. Il faudra aussi régler la collation si vous le souhaitez.
Et les concerts, un concert c'est 15 €. On a essayé de faire un tarif qu'on trouvait accessible au plus grand nombre.
Et alors, Avis, détenteur du pass culture, je crois qu'on peut aussi prendre un billet par ce biais-là.
Normalement, oui, absolument.
Eh bien, merci beaucoup à vous deux d'être venus nous présenter ce festival Regard Baroque de chez Dini dans cette méridienne. Alors, tout à l'heure, vous me disiez que vous commenciez déjà à réfléchir à la programmation 2028. C'est-à-dire que la 2026 et 2027 sont terminées.
Non.
Alors, en fait, le festival est bisannuel. Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, ou peut-être hors micro, mais c'est un travail colossal, en fait, d'organiser un festival comme ça. Parce qu'on n'a pas parlé d'argent, mais vous vous doutez que tout ça, ce n'est pas gratuit. Donc, il faut trouver
des... de citer vos mécènes.
Si bien, alors, on a des mécènes institutionnels, je pense au département, à la région, à la communauté de communes. On a la commune de chez Dini qui nous aide également. Et puis, on a un mécénat privé, donc des entreprises qui nous soutiennent. Et on a aussi lancé dès 2023 un financement participatif, c'est-à-dire que tout un chacun pouvait contribuer à la survie du festival. Et j'entends beaucoup dire, à juste titre, que les subventions étatiques et enfin institutionnelles diminuent. Écoutez, cette année, ça s'est encore bien passé, espérons que ça perdure.
Merci à vous deux à nouveau d'être venus dans cette méridienne. Il nous reste 2 minutes, alors quel sera à chacun votre mot de la fin? Qu'est-ce que vous aimeriez dire à nos auditeurs?
Osez venir, chez Dini est beau, même par son jardin. D'ailleurs, pour la prochaine session, moi j'ai pensé qu'il fallait qu'on fasse plus le lien avec les jardins, parce qu'il y avait le nôtre, et ça serait intéressant d'avoir quelqu'un qui nous fasse une conférence sur la différence entre les jardins à la française et les jardins à l'anglaise, parce que chez Dini, le village fleuri vit plutôt son jardin à l'anglaise. Voilà, ça peut être une piste, en dehors de tout ce qui est musical, voilà. C'est mon idée pour 2027, en fait.
Alors moi, j'en reviens à 2025. On a la chance de proposer à nos spectateurs, dans un village magnifique, des artistes de renommée internationale pour un prix dérisoire, je vous l'assure. 15€ pour des artistes comme ça, ça n'a rien à voir avec ce que vous payerez à Tours et à fortiori à Paris. Donc venez, venez nombreux, c'est une chance incroyable.
Bien, on vous aura entendu, en tout cas, sur les ondes de Radio Campus Tours. Je vous remercie, Carole Lesoubré et Bernard Glisson. C'est ça,
Glisson?
Voilà. Bon, je prononce mal votre nom, je m'en excuse, mais je me défie de dire le mien. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes la meilleure journée possible, évidemment, à l'écoute de nos programmes. Cette émission est à réécouter aujourd'hui même à 17h et à volonté en podcast sur notre site. Bonne journée à tous et à toutes.